C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Le Super Daily est en vacances, voilà, j'ai oublié de le dire, j'aurais dû le dire dans cet dans cette intro. Le Super Daily est en vacances,
ça donc se
c'est,
voit, hein.
Youpi, c'est les vacances, on est en hebdomadaire. Et on arrive ce matin avec une petite veille social media parce qu'on a beau être en vacances, c'est dommage quand même de vous laisser sans votre petite veille à minima hebdo. Comment vas-tu Camille Poignant?
Eh ben ça va Thibaut, et toi comment tu vas? Je te vois, t'es frais de partout là, c'est...
Je suis en pleine forme, je suis très heureux, déjà je suis très heureux parce qu'on est à nouveau ensemble réunis dans le studio, donc ça me fait plaisir parce que ces derniers temps on avait fait beaucoup de choses à distance et puis là on a l'occasion de se voir en vrai, donc c'est bien, ça me fait plaisir.
Ah ça c'est sûr, ça fait très plaisir.
Allez donc je disais veille social media, c'est la veille de l'hebdo, donc j'espère que t'as des trucs cool.
Moi j'ai des trucs très cool.
Allez vas-y.
Alors,
balance.
Je commence.
Vas-y.
Eh ben je vais parler de Twitch, puisqu'on est sur Twitch. Twitch qui fait x2 en un an. C'est les gros chiffres, x2 partout. Voilà. D'après une étude menée par Streamlabs et StreamHatchet, hein, qui sont des organismes de data en provenance des sites de streaming, l'audience de Twitch a fait x2 en un an entre le premier trimestre 2020 et premier trimestre 2021. Après un an de stagnation un peu en 2019, qui plafonnait en dessous des 3 millions, le début du confinement l'an dernier a fait passer la barre des 3 millions de visionnages de visionnage mensuel à la plateforme et depuis la croissance n'a pas cessé. Au second trimestre 2021, en plein confinement, on passait d'un coup de 3 à 5 millions d'heures de visionnage. On avait déjà fait un épisode là-dessus, hein. Et là, on vient d'atteindre le cap phare des 6 millions. On a passé un peu ce cap de la curiosité, hein. Cette étude, elle nous montre que non seulement le nombre d'heures visionnées a explosé, mais aussi le nombre d'heures streamées. La curiosité, c'était un peu, pour moi, la phase où les gens allaient voir c'était quoi Twitch, cette nouvelle plateforme. Maintenant, on a autant de streams que de visionnages, donc c'est intéressant. En un an, le nombre d'heures donc diffusées est passé de 121 millions à 265 millions. C'est même plus que le double, une augmentation de 119%. Et idem sur le nombre de créateurs, on a aussi passé cette barre symbolique de la curiosité. Le nombre de chaînes a fait x2 en passant de 6 millions au trimestre 2020, trimestre 1, à 12,5 millions au trimestre 1 de cette année. C'est assez énorme. Côté des catégories reines, on va dire, ça reste à peu près pareil. La catégorie la plus diffusée, et ben c'est celle-ci, celle dans laquelle on se trouve en ce moment, Just Chatting. On est juste là pour causer, qui représente 12% du contenu regardé sur Twitch en général, avec 754 millions d'heures visionnées au dernier trimestre. On parle là de streamers qui discutent avec leur communauté sans pour autant jouer à un jeu vidéo en direct, comme c'est une des légions sur Twitch. Cette catégorie, elle prend de plus en plus ampleur ces dernières années, avec notamment nous. Et par exemple, Samuel Etienne et sa matinée Etienne. Voilà, tous ces exemples dont on a déjà parlé. Donc, pour Twitch, que des bons scores en un an.
Ouais, c'est très cool, Twitch. Donc on vous donne rendez-vous, pour ceux qui ne le savent pas, tous les matins sur Twitch à 9h pour faire le Super Daily avec vous en direct, et c'est vrai que c'est très très chouette, super interaction, belle communauté, et puis effectivement des audiences qui sont en croissance, donc ça c'est très très cool, avec comme tu disais l'offre de contenu qui est à hauteur de la demande. Maintenant il y a autant de demandes que d'offres, hein, il y a autant de visionnage que d'offres, ça c'est quand même bon signe. Ça veut dire que tu peux proposer du contenu, tu peux créer une audience.
On n'est pas encore à maturité, c'est ça qui est trop bien.
Exactement. Bon, c'est ça qui est plutôt excitant. Allez, moi je vais te proposer d'imaginer un monde sans troll, un monde où tout le monde se respecte, où les conversations sont intelligentes, où l'on s'écoute avant de parler, un monde où l'empathie serait au cœur de nos interactions. Et maintenant, imagine que ce monde ce soit Twitter. Voilà, là tu te dis non, ce n'est pas possible, c'est impossible, pas ça sur Twitter. Eh bien, peut-être que si, en fait, peut-être que si, grâce à une application qui s'appelle Block Party. Block Party, elle permet de faire taire les trolls sur Twitter. Je vois que tu rigoles. Est-ce que c'est parce que tu avais la même news que moi?
Ouais, c'est ça. Non, alors je dirais même plus que tu avais la même news que moi. Mais vas-y, c'est intéressant. Hein.
Écoute, je continue et puis tu renchériras si tu veux. Une application, cette application, elle vient de voir le jour et elle permet de transformer ton compte Twitter en monde parfait peuplé de bisounours, hein, concrètement c'est ça l'objectif, ça s'appelle Block Party donc, et ça permet de filtrer ce qui se passe sur ton compte Twitter. Ça ressemble un peu à un anti-spam, sauf que là c'est un anti-troll en fait, hein. Tu te connectes au service, tu logs ton compte Twitter avec Block Party, ensuite tu fixes un certain nombre de paramètres où tu peux dire par exemple ne voir que les tweets de ses abonnés, des personnes avec lesquelles j'ai déjà eu une interaction, ou bien celles qui sont au moins suivies par 100 abonnés, ce qui permet d'éviter du coup les bots.
Et les comptes tout neufs, voilà, faits pour faire chier.
Exactement. Et ensuite, comme par magie, les contenus filtrés n'apparaîtront plus dans la colonne mention de ton compte Twitter. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça marche vraiment sur le Twitter natif, hein. C'est pas une application sur laquelle tu dois passer pour consulter ton Twitter. Non, ça a un impact direct sur ton Twitter dans sa version desktop. Intéressant, un truc particulièrement intéressant, je pense, pour ceux dont les tweets deviennent viraux, ceux qui explosent en termes d'audience comme ça sur un coup parfois, ou ceux qui ont des énormes audiences d'ores et déjà, ou qui sont des personnalités, etc. On voit très bien quel usage ça peut avoir, quoi.
Ouais, et c'est bien, du coup, j'avais noté d'autres petits trucs. Une autre fonctionnalité qui est marrante, hein, donc globalement, tu peux bloquer quasiment toutes les mentions qui arriveraient sur ton compte si tu as envie de faire un break, c'est une des fonctionnalités. Mais tu peux donner accès à un ami qui serait helper ou modérateur pour que lui contrôle les mentions indésirables à ta place. Là, ça paraît un peu farfelu, hein, mais cet outil, elle s'adresse aux personnes dont les tweets deviennent fréquemment viraux, qui peuvent donc attirer les inconnus, par exemple les journalistes qui utilisent régulièrement Twitter et qui voient leur contenu exploser, mais des individus qui sont régulièrement harcelés ou qui souhaitent réunir des preuves de ce harcèlement, puisque un fichier sécurisé se crée avec les trucs que t'as viré, que t'as ghosté de ton compte. Et Tracy Chu, hein, qui a créé cette application, elle est suivie par plus de 100 000 personnes et elle a été elle-même victime de cyberharcèlement dans ses années lycée, et la situation s'est aggravée quand elle a bossé dans la Silicon Valley. Donc en fait, elle crée vraiment, c'est quelque chose qui est créé par une victime, donc c'est réfléchi dans son ensemble, et c'est ça qui est intéressant. Il y a un interview d'elle, hein, je mets le lien dans Fast Company, donc si vous avez envie de regarder, déjà de comprendre un peu plus, on vous met les liens de tout ça.
Je crois que c'est payant, non, c'est 8 balles.
Je crois que c'est 8 balles ever, voilà, et qu'ils sont sur une mention, ils bossent sur un truc mensuel en ce moment.
Voilà, 8 balles, franchement, si t'es face à des problèmes de ce type, je trouve que c'est rien du tout pour t'épargner et puis continuer à pouvoir utiliser, bénéficier d'un Twitter propre, quoi. Quoi d'autre, mon gars?
Carrément. Moi, je voulais te parler, je suis assez fier de mon jeu de mots ce matin, je voulais te parler de LinkedIn.
Okay.
Tu as dû voir passer, hein. Alors il y a une semaine, on apprenait que les données personnelles de 533 millions de comptes Facebook avaient été hackées et mis en vente, soit au passage 106 pays concernés et 20 millions de comptes français, incluant les numéros de téléphone qui sont renseignés dans tes données privées sur Facebook.
Est-ce que t'as fait le test?
J'ai fait le test.
Et moi je fais partie de la liste.
Voilà. C'est vrai.
Ouais, franchement, ça m'a fait froid dans le dos, un peu comme un cambriolage numérique.
Non, j'ai testé toutes mes adresses et tout. On va expliquer après ce que c'est ce fameux test. Vendredi, donc ça c'était semaine dernière, il y a 10 jours à peu près. Vendredi, c'était au tour de LinkedIn de se faire taxer les données de 500 millions d'utilisateurs. Voilà, ça fait froid dans le dos à vous qui êtes sur LinkedIn. LinkedIn, bien sûr, se défend en disant qu'aucune attaque n'a été détectée, que cela ressemble fortement à un scrap de données publiques de LinkedIn. Tu sais, on peut faire ça avec des petits bots russes.
Ouais, mais il faudra m'expliquer la différence entre les deux, en fait. Hein.
Le scrapping va pomper des données publiques. Il va pas avoir accès à la base de données LinkedIn avec, par exemple, ton numéro de téléphone qui serait là juste en cas de numéro de contact. Le scrapping, il va pomper quelque chose. C'est ce que dit LinkedIn. Mais comme les hackers, en général, ne font pas les choses à moitié, pour prouver leur bonne foi, ils ont mis à dispo un échantillon de 2 millions d'utilisateurs pour la modique somme de 2 euros pour leur dire « Regardez, on a bien un fichier qui est constitué comme ça, comme ça ». Donc selon le rapport qu'a fait Cybernews sur le sujet, le panel comprendrait les identifiants LinkedIn, les noms complets, les adresses mail, les numéros de téléphone, des informations sur le lieu de travail, le titre, le poste, etc. À peu près tout ce qu'il y a sur votre page privée LinkedIn, donc...
Beaucoup de trucs quand même, hein.
Voilà, beaucoup de trucs quand même. Et donc, depuis son compte sur un forum de hackers, hein, le responsable demandait à qui voudrait bien les acheter de faire une proposition à 4 chiffres minimum. Donc, il n'y avait pas de prix fixe. Depuis, un nouveau hacker affirme disposer de la même base, plus 327 millions de nouveaux profils, le tout à dispo pour 7 000 $. Donc, si
c'est
ça
cadeau.
Vous intéresse, je trouve que c'est pas cher du tout.
C'est cadeau. Hein.
Quand tu vois combien tu payais des bases mail, il y a 10 ans peut-être, tu payais ça un bras pour 20 000 adresses.
Ce qu'il faut préciser quand même, c'est que 500, on parle de 500 millions de comptes qui ont donc leaké de LinkedIn. 500 millions de comptes, c'est quand même un tiers de la plateforme. C'est un tiers c'est des comptes de la plateforme.
Plus 327 millions. A priori, j'ai vu que donc l'outil dont on va parler après parle de 700 millions plus ou moins de comptes. Donc c'est un peu plus que 500 millions. Et donc Cybernews, hein, qui est un organisme qui fait sécurité, blog d'actu, etc., plein de choses autour du hacking, a mis en place un outil pour savoir si vous faites partie des récentes listes de leaks incluant Facebook et LinkedIn. Donc quand tu te connectes à cet outil, tu mets ton adresse mail ou ton numéro de téléphone qui te sert à te connecter sur une, l'une ou l'autre plateforme et tu sais si tu appartiens à ces listes de qui ont fuité. Donc je vous mets le lien et toi Thibaut t'en fais partie alors.
Eh ben en tout cas ouais, concernant Facebook j'en fais partie, effectivement j'ai fait le test, voilà.
Sale histoire ça.
C'est sale histoire, c'est pire qu'un test PCR.
Franchement Facebook 20 millions de comptes en France, forcément il y en a un sur trois qui en fait partie.
Ouais voilà, donc allez jeter un coup d'œil quand même hein, et ça vaut le coup si vous en faites partie. Alors si vous en faites partie, pas de panique hein, n'allez pas forcément voilà,
changer vos identifiants
et changer, mettez un coup de propre, changez vos identifiants
et puis l'authentification à double facteur s'il vous plaît,
ça la base. ok allez, on va, je te propose maintenant de gagner des sous en papotant en ligne. Voilà, si jamais t'avais besoin de faire des ronds, bah tu peux arrondir les fins de mois avec Clubhouse, hein, Clubhouse qui a annoncé des nouveautés de ce côté-là après avoir lancé son programme Creator Accelerator. On en avait parlé il y a quelques jours ici au micro du Super Daily, c'était le mois dernier. Clubhouse a annoncé le lancement d'une fonctionnalité de rémunération pour les créateurs. C'est une fonction qui permet aux utilisateurs eh bien, de faire des dons à leur host préféré.
Comme sur Twitch, ok.
Comme sur Twitch, comme sur YouTube aussi, comme sur Instagram, hein, comme beaucoup, hein, ça devient un modèle, effectivement, de rémunération des créateurs de contenu par leur communauté. La fonctionnalité, pour l'instant, elle permet aux utilisateurs de transférer des sous aux créateurs en accédant assez simplement à leur profil et en appuyant sur un petit bouton qui dit « envoyer de l'argent, envoyer de la thune, envoyer de la moula », je sais pas comment ils le traduiront en français, en bas de l'écran. Donc, assez simple. Pour l'instant, déploiement en cours, il est réservé à un certain nombre de créateurs test, mais on devrait rapidement s'étendre, ça devrait pouvoir s'étendre à tous, en tout cas c'est ce qu'annonce Clubhouse. La screen capture qui est proposée par Clubhouse pour illustrer cette nouvelle fonctionnalité, eh bien elle donne un exemple avec un compte de 2043 followers, donc un compte assez modeste hein, sur la plateforme. Donc il est a priori, cette fonctionnalité va s'ouvrir à peu près à tous en tout cas, donc ça c'est intéressant aussi. C'est une étape importante pour Clubhouse hein, qui est dans une phase critique de son développement. Il y a eu un énorme effet de buzz, énorme aura pour la plateforme, et puis on a quand même l'impression que les choses sont en stagnation, en tout cas qu'il y a un ralentissement dans cette croissance un peu folle. Les early adopters sont passés par là, certains ont mordu à l'hameçon, d'autres moins, et puis surtout en face on a des gros acteurs qui commencent sérieusement à proposer des alternatives. On en a parlé, Spaces chez Twitter, Facebook qui a fait aussi des annonces, hein, on en reparlera ici dans Super Daily. LinkedIn qui a dit qu'il s'intéressait de très près à ça. Bref, pas mal d'alternatives qui commencent à se présenter ailleurs. Et du coup, Clubhouse a besoin de retenir ses créateurs de contenu. Et c'est ce qu'il souhaite faire aujourd'hui avec donc Clubhouse Payments, cette fonctionnalité de don pour les créateurs de contenu.
C'est quand même assez dingue. Avant Twitch, il y avait peu de moyens de se faire rémunérer n'importe où sur n'importe quelle plateforme en tant que créateur. Même tu pouvais galérer à exposer tes super tafs sur un compte Instagram, sur YouTube tu pouvais mettre des années à taper 10 000 vues par hasard un jour, et puis maintenant toutes les plateformes proposent de rémunérer les créateurs, même si t'arrives avec rien, ta base, ta famille qui arrive, qui peut t'aider.
Mais pourquoi? Parce que les créateurs de contenu, c'est eux qui drivent l'audience, c'est pas les plateformes en elles-mêmes, c'est les créateurs
carrément.
De contenu.
Donc non, mais si, c'est trop bien.
Si les créateurs de contenu sont sur une plateforme, les audiences suivent avec. Et en fait, effectivement, ce monde, les algorithmes appartiennent aux créateurs de contenu. Voilà, tenez-le vous pour dit. Allez, j'ai une dernière petite news. Est-ce que tu as autre chose, toi?
Bah non, vas-y, tu m'avais pompé mes news, moi, tu sais. Hein. Tu peux y aller. Hein.
on va parler d'emojis. Et si les emojis en disaient beaucoup sur l'air du temps, hein, sur ce qui se passe dans le monde, et si on pouvait lire notre état d'esprit collectif grâce aux emojis. Voilà, c'est une hypothèse qu'on fait comme ça, et que fait notamment Emojipedia. Tu connais Emojipedia?
Bah oui, la bible de l'emoji, quoi.
La bible d'emoji, super site internet, si vous ne connaissez pas, emojipedia.org. Eh bien, Emojipedia arrive avec une étude que j'ai trouvée fascinante. L'emoji larme de tristesse est désormais plus populaire que l'emoji larme de joie sur Twitter. Et ça peut-être que ça en dit beaucoup sur ce qu'on est en train de vivre collectivement. L'emoji, donc, loudly crying face, Chris, c'est le fameux emoji, tu sais, avec des grosses larmes qui pleurent à torrent. Il est devenu, c'est devenu la réaction la plus populaire, la plus utilisée sur Twitter au mois de mars. Et visiblement, ça va être le cas sur les mois à venir. Et il a détrôné le visage avec des larmes de joie, face with tears of joy, donc qui est un peu l'opposé, qui est donc un emoji qui pleure de rire et qui dominait depuis de nombreuses années. Ça faisait plusieurs années que c'était vraiment l'emoji le plus utilisé sur Twitter. Et c'est intéressant parce que ça nous dit beaucoup aussi de la manière dont on utilise les emojis. Évidemment, évidemment. Alors il y a plein de courbes sur cette étude. Et évidemment, on voit une corrélation entre le début de la pandémie et ce switch, ce mouvement vers un emoji qui peut-être en dit plus sur l'état d'esprit global. Et donc, depuis avril 2020, l'emoji larme de joie est en chute libre, là où l'emoji larme de torrent de larmes, donc triste, lui est en hausse. Et ça, c'est le début de la pandémie. Donc, c'est quand même très intriguant. Alors l'étude souligne et pondère aussi en expliquant qu'il y a peut-être une autre hypothèse, notamment le fait que Face with Tears of Joy, donc l'emoji avec des larmes de rire, eh bien aurait été peut-être victime de son succès, que les Gen Z notamment...
Trop utilisé.
Ouais, et que ça fait un peu boomer et que les Gen Z s'en seraient écartés en disant « ouais, bof, c'est plus vraiment dans l'air du temps ».
Et tiens, en parlant d'emoji, on avait une discussion l'autre jour tous ensemble avec notre collègue François qui nous parlait de cet emoji, l'emoji sourire classique. Et l'emoji sourire, et depuis je n'arrête pas d'y penser, l'emoji sourire aurait une aura pareille. Je sais plus si c'était une étude ou un texte là-dessus qui disait que cet emoji se transformait de plus en plus en quelqu'un qui te regarde de haut. Tu sais, on met un petit sourire pour essayer de faire passer la pilule qu'on vient de passer avant, et ton chef t'envoie un emoji où tu te dis tiens, faudrait que je mette un truc sourire pour... Et en fait, tu le mets banalement et cet emoji se transforme en « je te regarde de haut » et maintenant, de plus en plus, j'analyse cet emoji et je me dis « ouais, c'est... parfois, il a une posture bizarre. Il n'aurait pas besoin d'être là. » Moi, c'est vrai que j'en mets par réflexe des fois. Il n'aurait pas besoin d'être là. Donc, quelque part, je te regarde de haut, je te souris pour te faire plaisir, tu vois.
C'est compliqué l'étiquette en emoji. C'est-à-dire comment se comporter en emoji.
Ah, mais là, c'est de la psychologie
pure. On peut écrire un bouquin. Et puis surtout, les choses, on voit que les choses changent aussi. C'est que les usages se transforment. Et que parfois, il y a des choses qui étaient bienvenues et qui ne le sont plus, etc. Et en tout cas, les emojis ont un sens. On l'a déjà dit ici dans le Super Daily. Attention à comment vous utilisez les emojis. Ça ne s'utilise pas à tire-larigot. Et nous, c'est un travail qu'on fait quand on accompagne des marques. On a un travail préalable avec eux avant de travailler leur community management, avant de les accompagner dans leur prise de parole sur les réseaux sociaux, qui est celui d'identifier et d'avoir une réflexion commune sur les emojis, lesquels j'utilise, lesquels je souhaite ne pas utiliser. Qu'est-ce que ça veut dire tel emoji? Intéressant, voilà. Donc écoutez, à noter en tout cas que l'emoji qui pleure est en pleine bourre en ce moment. Donc peut-être que collectivement on peut, en cette semaine de vacances confinées, peut-être qu'on peut essayer d'inverser la tendance tous ensemble, balancer des emoji cœur, des emoji larmes de joie, voilà.
Excellent. Bah écoute, moi je vais juste sourire aujourd'hui, si tu veux bien.
C'est bien, mais ça me va très bien. T'as un très beau sourire, monsieur Poignet.
Eh bien, c'est très cool cet épisode. Merci à tous de nous avoir suivis en direct sur Twitch. On est là pour répondre à vos questions.
Voilà, et puis pour ceux qui nous écoutent en podcast, parce qu'évidemment, on est avec vous dans vos oreilles chaque matin avec le Super Daily. Alors pas chaque matin cette semaine, puisque cette semaine, je le disais, on passe en hebdomadaire. La semaine suivante aussi. Pourquoi? Bah parce qu'on a le droit aussi un petit peu de repos. Ça nous fait du bien. Et puis c'est tout. Et on se donne rendez-vous semaine prochaine. N'hésitez pas à partager cet épisode et puis à venir échanger avec nous sur les réseaux sociaux @supernatif.
Sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitch, Twitter, Pinterest, TikTok, partout.
Merci à vous tous. On vous souhaite une très très belle journée et on vous donne rendez-vous semaine prochaine. Salut tout le monde. Ciao.
Allez, ciao.